Chorale, John s'est mis au piano pour jouer du jazz. Et ça a choqué certaines oreilles, mais j'en garde un merveilleux souvenir. Il y a un piano ici, si tu veux mettre au milieu, mais ça c'est à toi de voir.
Écoutez, merci Egbert et merci à tout le monde. Je vous félicite, hein, il est tard. Et vous êtes encore ici, donc je vous félicite vraiment et c'est un plaisir de pouvoir vous apporter le dernier message aujourd'hui. J'aimerais juste prier avant d'entamer cela et je vous explique un petit peu ce qu'on va faire, d'accord? Seigneur, c'est vraiment une joie de pouvoir encore être ici et de pouvoir annoncer ouvertement et librement la parole de Dieu. Seigneur, je sais qu'il y a des gens, même dans cette salle, qui souffrent des situations difficiles. Je sais qu'il y a des gens qui viennent d'autres pays où la persécution est réelle. Et Seigneur, je te prie de nous rappeler l'importance que nous avons de profiter de la liberté que nous avons aujourd'hui, Seigneur. Et je te prie de nous encourager maintenant par rapport à vraiment le grand plan que tu as, Seigneur, pour le monde, mais aussi pour là où tu nous as placés. Seigneur, encourage-nous avec cette vision que tu as. Seigneur, sachant que tu vas revenir bientôt, nous ne savons pas quand, mais nous voulons être prêts, Seigneur, et continuer l'œuvre que tu nous as donnée jusqu'à ce jour. Donc voilà, encourage-nous maintenant, et je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mais écoutez, alors, mon objectif cet après-midi, c'est de donner la suite de ces messages. Alors, nous avons commencé ce matin en définissant ce qu'est la grâce, en utilisant la parabole dans Matthieu 20. Ensuite, on a essayé de voir comment partager cette grâce autour de nous. Et nous avons utilisé Acte 8 pour cela. Et alors, je me suis posé la question en réfléchissant à ce thème de la grâce. Quel est le résultat, je dirais, évident de ces deux premières phases de la grâce de Dieu? C'est-à-dire que si je comprends ce qu'est la grâce, et je commence à l'annoncer autour de moi, alors on sait très bien qu'ici en Belgique, comme en Suisse, comme en France, comme en Europe, c'est compliqué, c'est difficile, le fruit n'est pas énorme, mais il y aura quand même du fruit, parce qu'on sait très bien que Dieu a déjà préparé certaines personnes à recevoir l'Évangile. Alors, au fur et à mesure que les gens viennent à Christ, que va-t-il se passer? Eh bien, ce que j'aimerais démontrer cet après-midi, c'est tout simple, c'est que, avec la conversion de personnes, des églises vont naître. Des églises vont naître. Des nouvelles églises. Et ce que j'aimerais démontrer, c'est que de nouvelles églises, l'implantation de nouvelles églises, s'inscrit dans le plan de Dieu comme le meilleur moyen d'atteindre le monde avec l'Évangile. Alors, on va faire deux choses. J'aimerais faire un survol très rapide du livre des Actes pour vous convaincre que l'Église, c'est vraiment la clé. D'accord ? Et ensuite, j'aimerais vous montrer un PowerPoint où j'ai pris plusieurs cas très spécifique, et tu vas en reconnaître un, Egbert, à Paris. Et on va regarder le résultat de multiplication d'églises. Et j'espère que vous allez sursauter de joie et que vous allez être encouragés de savoir que même si c'est compliqué et difficile ici, Dieu fait une œuvre en Belgique. Et il n'a pas fini. Et il va continuer de le faire. Et nous devons continuer à être encouragés par ce que Dieu est en train de faire. Donc voilà mon objectif cet après-midi. Donc on va regarder en premier le principe biblique de l'implantation d'églises, et ensuite on va regarder plusieurs études spécifiques d'implantation d'églises. D'accord ? Alors, pour faire ce survol, j'aimerais simplement voir ce mouvement d'implantation d'églises au travers de trois personnes clés. On va regarder Jésus-Christ, Paul et Pierre. Regardez avec moi Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25. Alors le contexte, c'est le mariage, c'est les maris qui doivent apprendre à aimer leurs femmes et les femmes qui doivent apprendre à aimer leurs maris. Mais je trouve intéressant la manière que Paul l'écrit ici. Éphésiens 5, 25, « Marie, que chacun aime sa femme, comment ? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. » Donc on apprend tout simplement ici que Jésus-Christ est venu et qu'il s'est livré pour l'Église. De ce fait, nous apprenons que l'Église est clairement la priorité ultime de Dieu. Que l'Église est au cœur même du plan divin de Dieu. Ah, c'est gentil. L'Église est une priorité pour les chrétiens. Et c'est donc au travers de l'Église, pour laquelle Christ s'est sacrifié, que Dieu va atteindre le monde avec l'Évangile. Alors bien sûr, l'Église universelle est donc le grand total de tous les chrétiens qui connaissent Christ personnellement dans le monde. Mais ces chrétiens adorent et témoignent et servent dans des groupes locaux qui devraient être menés par un groupe d'anciens qualifiés selon les prescriptions claires de 1 Timothée 2 et Tite 1. Et ces groupes s'appellent des églises locales, ou s'appellent rien de nous. Je sais que je vous apprends rien de nouveau ici. Mais qui veut dire qu'un chrétien sans église locale est une contradiction de termes. Il est intéressant de noter que lorsque Adam a péché, Dieu avait déjà un plan en tête pour réconcilier le monde. Dieu avait déjà dans sa tête, et là on le voit dans Genèse 12, choisi Abraham et une nation au travers de qui le monde serait béni, Genèse 12. La nation d'Israël, bien que choisie, a en fait échoué dans sa tâche en rejetant le Messie et en le clouant à la croix. Mais cela, c'est intéressant, a fait partie du plan de Dieu. Romains 11, 11, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Et dans Éphésiens 3, ce mystère qu'on appelle l'Église est justement appelé un mystère. Donc nous vivons, mes amis, dans un temps de l'histoire unique. Regardez avec moi Matthieu 16. On va commencer à tracer tout ça. Regardez, Matthieu 16. Alors, suivez-moi et ça va devenir très clair, d'accord ? Matthieu 16, 16, vous connaissez ce verset où il est dit ceci. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voyez-vous, Jésus a prophétisé qu'il bâtirait son Église. Au verset 17, il annonce, chapitre 18 et le verset 17, c'est d'où le texte sur la discipline d'Église, il dit, lorsqu'un pêcheur dans l'Église pêche, il faut le discipliner, il dit, dis-le à l'Église, s'il refuse de l'écouter à l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen publicain. Donc, il est mort pour l'Église, il va bâtir son Église, et il veut que son Église soit pure. Éphésiens 5, 25, on l'a vu tout à l'heure, il s'est donné pour l'Église. Dans Actes 20, 28, nous apprenons ceci. Prenez donc garde à vous-même, il dit aux anciens d'Éphèse, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Donc, Jésus a racheté l'Église par son propre sang. Il l'a sanctifié, il la lave, Éphésiens 5, 26. Il va faire paraître un jour son Église devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, selon Éphésiens 5, 25, mais sainte et irréprochable. Mes amis, ça c'est nous. Et dans Éphésiens 1, et le verset 22, nous apprenons ceci, Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ est le chef suprême de l'Église. Tout ce que je suis en train de montrer, mes amis, c'est que l'Église n'est pas une arrière-pensée. L'Église universelle, mais aussi les Églises locales, on va le voir dans quelques instants, sont la priorité pour Dieu. Et la raison pour laquelle il a donné son Fils, pour acheter l'Église. Alors, quel est l'objectif de l'Église? Alors, moi, je le résume en trois points. Gagner des gens pour Christ, former des gens pour Christ, déployer les gens pour Christ. Gagner les gens pour Christ, former les gens pour Christ, déployer les gens pour Christ. Donc ça, c'est Jésus. Alors, vous vous rappelez, Jésus est mort, ressuscité des morts. Quel était son plan pour l'Église après sa mort? Matthieu 28, je l'ai lu plus tôt aujourd'hui, verset 18, « Jésus s'étant approché, parla à ses disciples ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, c'est intéressant que le seul commandement ici, c'est de faire des disciples. Comment? En allant, en baptisant, en enseignant. Donc, il y a, les disciples ont eu la responsabilité, après Christ, de manière délibérée, d'aller et de faire des disciples. Maintenant, regardez avec moi. Acte 1, 6. On va aller vite. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et ensuite, au verset 8, il dit, mais, alors il veut savoir, est-ce que c'est maintenant, c'est la fin? Il dit, non, c'est pas encore la fin. Mais voici ce que je vous donne. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Jésus vient, il donne sa vie pour l'Église, il dit maintenant, l'Église, attention, elle va commencer à grandir. Comment? Je vais vous donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous aider à être témoin. Où? Partout. Chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc voilà, c'est l'aboutissement, c'est ce qu'il est en train de dire. Et ils se mirent parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur avait donné de s'exprimer. L'Esprit vient, le résultat immédiat. Regardez le verset 14. Alors, Pierre, oui, celui qui avait renier le Seigneur trois fois. Ce même Pierre, rempli du Saint-Esprit, verset 14, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, homme juif. Et il prêche. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et il commence à prêcher. Résultat, au verset 38 déjà il dit, repentez-vous. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Wow. Quelque part, hein, je dirais que tout pasteur c'est le rêve, mais je me dis, est-ce que vraiment on veut 3000 personnes qui viennent à Christ en un jour? Là il faut gérer. Bref, c'est ce qui se passe ici. 3000 conversions d'un coup. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'Église commence à se former. Enseignement, communion fraternelle, fraction du pain, prière. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Verset 47, et il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Alors Dieu donne le don de miracle à ses apôtres, et là on voit dans chapitre 3, Le boiteux est guéri miraculeusement. Tout le monde est étonné par la guérison. Pierre, de nouveau, se lève et prêche. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance et par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» Mais allez voir, ce n'est pas nous qui avons guéri cet homme, c'est Dieu en Christ. Verset 19, chapitre 3, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin qu'un temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. » Alors, son message a un effet intéressant. Ils sont persécutés, chapitre 4, verset 1. Ils sont arrêtés, emprisonnés. Mais verset 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. 5 000! Une croissance massive. Le message ne peut être plus clair. Chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Clair, net, précis, Christ, Christ, Christ. Alors malheureusement, l'Église grandit, mais le péché s'infiltre dans l'Église. L'histoire d'Ananias et Saphira, acte 5. Mais regardez la petite chose intéressante du verset 11 d'acte 5. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Vous voyez ce qu'on est en train de voir? C'est que des gens viennent à Christ, mais ils commencent à se réunir en assemblée, en Église. En anglais, le mot ici est « church ». De tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, l'Église est en train de se former ici. Et regardez chapitre 8, maintenant les persécutions, l'Église grandit, les gens ont peur, les Juifs n'aiment pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors il y a prédication et prédication et prédication. Ces hommes se lèvent, courageux. Chapitre 8, verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, premier martyr. Et il eut en ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Mes amis, si nous commençons à prêcher et à prêcher clairement, nettement, vraiment les choses, les gens vont réagir. Certains se convertiront, certains n'aimeront pas. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. L'Église. Voyez-vous, l'Église est maintenant appelée Église. Mais elle est ravagée, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ça chauffe. Donc ça, c'est Pierre. Chapitre 9, Paul se convertit. Vous vous rappelez l'histoire? Lui, il persécute les chrétiens. Il va à Damas, il se convertit sur cette route. Jésus le convertit. Mais ce qui était étonnant, il se convertit, verset 20 du chapitre 9, juste après sa conversion, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alors Paul, c'est la nouvelle machine missionnaire qui commence. Et il prêche immédiatement. Alors ils ont peur maintenant les apôtres, parce qu'ils disent, mais t'as voir, là c'est Paul, Paul était juif, maintenant il est chrétien, est-ce que c'est peut-être un espion? Alors c'est Barnabas qui vient au secours. Et lui, il explique à tout le monde, non, alors verset 27, Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, il leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Barnabas prend Paul, elle lui explique, elle le présente à tout le monde, dit non, il est bien ce gars, il est vraiment bien. Regardez verset, chapitre 11 maintenant. Chapitre 11. Il y a commencé une expansion qui se fait ici. Versets 21 et 22. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Donc là, le mot « église » apparaît de plus en plus ici. Barnabas apporte Paul jusqu'à Antioche. Et au verset 26 du même chapitre, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Donc on voit tout simplement qu'avec toutes ces conversions, des églises locales maintenant sont établies. Ici à Antioche, il y avait déjà à Jérusalem. Chapitre 13, verset 1, regardez. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïn, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Donc l'église d'Antioche devient un centre. Et là, tout d'un coup, ils sont en train de prier et jeûner. Le Saint-Esprit dit au verset 2, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre de laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et donc, ils partent. Ils partent. L'église d'Antioche devient un centre, une congrégation, une église locale. Elle est appelée l'église locale. Et de là, maintenant, ils envoient des missionnaires pour fonder de nouvelles églises. C'est là où j'en viens. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier voyage missionnaire. D'ici, Paul et Barnabas partent. Et ils vont à Salamine, Paphos, Perge, Antioche de Pisidie, Icône, Lystre, Derbe, puis reviennent. Alors, comment est-ce qu'on sait que dans toutes ces villes où ils ont été voyagés, ils ont implanté des églises? Ben, regardez, Acte 14, 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Donc, ils vont dans toutes ces villes. Ils prêchent l'évangile, des gens se convertissent, ils se réunissent en assemblée locale, ils deviennent église, ils reviennent et tac, 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 ils nomment des anciens dans toutes ces églises, des jeunes anciens dans les jeunes églises, ça c'est étonnant quand même. Donc là on voit clairement, il y a des églises qui sont menées par des anciens. Verset 27 du chapitre 14. Après leur arrivée, donc ils reviennent à Antioche. Après leur premier voyage missionnaire. Et ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Donc voilà le premier voyage missionnaire. Conversion, Église, anciens, ils reviennent. Deuxième voyage missionnaire, chapitre 15, verset 41. Donc ils repartent. Et ils parcoururent la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc ils repartent dans la même région et ils vont encourager les églises. Vous voyez, c'est le pluriel des églises. Église, église, c'est ce mot la clé. Église, église, église. Chapitre 16 et le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. C'est intéressant, n'est-ce pas, que chaque centre d'activité maintenant devient une église locale. Et il continue à Troas, à Philippe, à Thessalonique, à Bérée, à Athènes, à Corinthe, à Éphèse, à Césarée, à Antioche. Je fais un survol ici. Et il revient. Ensuite, il y a un troisième voyage missionnaire à partir du chapitre 18 et le verset 23. Ils repartent encore une fois. Et ils font où? Ben, il dit au verset 23, lorsqu'ils eurent passé quelque temps à Antioche, et ensuite ils vont à Éphèse, Thessalonique, Bérée, Athènes, Corinthe, Thessalonique, Philippe, Troas, Milète, Antioche. Ben, ils voyageaient pas là. Hein. Alors nous savons qu'il a implanté une église à Éphèse. J'ai eu le privilège d'aller à Éphèse. Parce qu'au chapitre 20 et au verset 17, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc il a été dans toutes ces villes, il a implanté des églises, des anciens ont été nommés, et là il appelle les anciens de l'église d'Éphèse. Et qu'est-ce qu'il leur dit au verset 28? Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. De nouveau, l'église, l'église, l'église. Alors tout ce que je voulais faire, très rapidement, c'est de vous donner un survol du livre des Actes, pour que vous soyez convaincus. On comprend la grâce de Dieu, on est touché par la grâce de Dieu personnellement, individuellement. On commence par notre joie et par le pardon des péchés que nous avons reçus, de vouloir en 5 minutes avec un verset, avec un peu de courage, d'annoncer cette grâce autour de nous. Des gens que Dieu a préparés à l'avance, dont les circonstances font qu'ils vous ont rencontrés, se convertiront. Ces gens, on en fait quoi? des églises locales. Ils doivent se réunir dans les églises locales. Ça, c'est le but de ce que j'essaie de montrer ici. Alors, j'aimerais maintenant m'arrêter juste quelques minutes sur l'église d'Éphèse. Tenez-vous, c'est génial. L'église, le modèle d'Éphèse. Un commentateur a dit ceci, « Le modèle dans le Nouveau Testament n'était pas celui de faire des disciples et de les laisser sans qu'ils soient liés avec d'autres chrétiens. Voici pourquoi l'église locale est une importance cruciale. Le modèle biblique n'est pas non plus celle d'élargir toujours plus les églises existantes pour qu'elles aient des milliers de membres. » Alors, ce n'est pas un mal, mais ce n'est pas le but. Il y en avait certes des grandes, mais le modèle biblique semble avoir été d'intégrer les nouveaux convertis dans des églises locales qui se réunissaient souvent dans les foyers et de multiplier ces églises-là. Certains ont affirmé que Paul est resté dans certains lieux plus longtemps, comme à Corinthe ou à Éphèse, et que cela justifierait comme quoi on devrait agrandir nos églises. Alors comme je dis, il n'y a rien de mal avec des grandes églises, avec des grands bâtiments. Mais il faut noter que si Paul est resté plus longtemps dans certains lieux, c'était pour démarrer de nouvelles églises dans de nouveaux lieux. Alors j'aimerais vous montrer quelque chose. On va peut-être allumer le PowerPoint. Est-ce que je peux prendre le micro parce qu'il faut que je me... Très bien. Voilà, parfait. Alors, j'aimerais vous montrer... ce qui s'est passé à Éphèse. D'accord ? Il faudrait que vous puissiez lire le PowerPoint, parce qu'on va lire quelque chose là. Mais c'est le modèle très encourageant d'Éphèse. Et ensuite, je vais vous montrer des modèles modernes. D'accord ? Alors, on va passer au prochain... Alors, Éphèse, c'est en Turquie aujourd'hui. On voit la ville d'Éphèse. Vous pouvez la visiter aujourd'hui. C'est une ruine, mais c'est absolument merveilleux si vous avez le privilège d'y aller. Voici l'église d'Éphèse. C'est là où Paul a passé 2 voire 3 ans. Prochain. Alors, il y a eu des églises implantées à partir d'Éphèse. Et la clé, c'est un homme. Un homme très humble et discret qui s'appelle Épaphras. Vous avez peut-être entendu parler de lui dans la Bible. Prochain. Alors, qui était Épaphras ? Il est mentionné 3 fois dans le Nouveau Testament. Colossiens 1:7, Colossiens 4:12, Philémon 23. Regardons ces versets. Paul écrit l'épître aux Colossiens après qu'Épaphras l'ait visité en prison à Rome. Donc Paul est en prison, c'est la fin de son ministère. Épaphras le visite, il est en prison à Rome. Il lui donne un rapport, donc Épaphras lui avait donné un rapport des églises dans la région. Paul écrit donc à l'église de Colosse par le biais de l'épître aux Colossiens. Et voici ce qu'il écrit. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité d'après les instructions que vous avez reçues de qui ? Épaphras. Donc n'oubliez pas, Paul écrit de Rome à l'église de Colosse et il explique ici qu'ils avaient reçu l'information, apparemment de l'évangile, de la part d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service et qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Prochain. Colossiens 4:12, il dit ceci. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre. Donc Épaphras est à Rome, il visite Paul en prison. Et il dit, Épaphras vous salue, d'accord ? Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. Donc, Paul dit, Épaphras prie et a à cœur 3 groupes de chrétiens à Colosse, à Laodicée et à Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Ah, on apprend qu'il y a une église dans la maison de Nymphas à Laodicée et qu'apparemment Épaphras était lié à cette église. Prochain verset. Philémon 23, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ salue. Alors, prochain. Réunissons les faits. Suivez. Épaphras était un des amis les plus proches de Paul et se sont apparemment rencontrés à Éphèse. Il est probable qu'Épaphras ait été un des étudiants dans l'école de Tyrannus où Paul a enseigné pendant 2 ans selon Actes 19:9. Donc Paul est allé à Éphèse, il y était 2 ans, il enseignait dans une école biblique. Épaphras était apparemment un des étudiants. Quoi qu'il en soit, Paul appelle Épaphras son compagnon de captivité. Nous concluons donc que c'est Épaphras qui a évangélisé les villes de la vallée de Lycus pendant cette période. Selon les versets précédents qu'on vient de lire, il semblerait que c'est bien Épaphras qui aurait fondé les églises de Colosse, de Hériapolis et de Laodicée. C'est plus tard qu'Épaphras a visité Paul à Rome lorsqu'il était en prison et c'était les nouvelles des églises dans cette vallée de Lycus qui ont poussé Paul à écrire l'épître de Colossiens. Maintenant, je vous montre ça visuellement. Prochain verset. Prochaine, voilà. Donc, voici Éphèse. Et si on a bien décortiqué le texte, on a l'impression que l'étudiant de Paul, donc Épaphras, aurait fondé Laodicée, Hériapolis et Colosse. Prochain. Alors, la vie géographique. Moi, quand j'y étais, j'étais intrigué. Donc, j'ai pris mon appareil photo et j'ai pris des photos. D'accord ? Si vous êtes à Hériapolis, vous pouvez voir Colosse et Laodicée. Alors, encore une. Voilà. Là, j'étais à Hériapolis et j'ai pris une photo. Et Colosse, alors, c'est devant la montagne et Laodicée devant la montagne. Et ce qu'on note, c'est que ces trois églises ne sont qu'à 30 kilomètres l'une de l'autre. Bien sûr, c'était à pied ou à cheval à l'époque. Mais elles sont assez proches d'elles, d'une de l'autre, à 30 kilomètres. Prochaine. Alors, voilà. Moi, j'étais super content, j'étais à Colosse. C'est marrant, on étudie une épître et là, tout d'un coup, on y est. Alors voilà, j'étais à Colosse. Alors le Colosse est un tel, d'accord ? Alors là, je suis debout sur Colosse. Vous voyez, c'est une sorte de colline en terre et derrière, il y a des arbres. Prochaine image. Et là, on voit très bien un tel. Alors un tel, c'est une colline. Alors à l'époque, ce qu'ils faisaient, ils construisaient une ville et quand la ville, il y avait un problème ou un tremblement de terre, ils rasaient la ville et ils reconstruisaient par-dessus et on faisait ça ainsi de suite. Et donc un tel, c'est un gros tas de terre sous laquelle il y a une ville. Et il y a plein de tels en Israël, il y a des tels partout où il y a la Bible, il y a des tels, d'accord ? Alors ce qui est marrant, c'est que ce tel est un grand tas de terre au milieu de champs. Et là, on voit très bien le tas. Prochaine photo. Et alors, c'était incroyable. Je voyais cette pierre et cet arbre dépasser de cette terre. Alors j'ai dit à la guide, mais écoutez, c'est quoi ? Elle a dit, bah écoutez, je ne sais pas, il faut creuser pour voir. Mais il y a peut-être des trésors là. J'ai dit, mais écoutez, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un archéologue qui va creuser pour voir ? Il y a peut-être des trésors. Elle m'a dit, monsieur, en Turquie seul, tout seul, il y a 200 sites archéologiques clés, sans argent et sans archéologue, qui attendent quelqu'un d'y aller et faire de l'archéologie. Donc, si vous vous sentez appelé à être archéologue, allez à Colosse. Ce serait une option. Il y a tellement de travail à faire. Prochaine photo. Donc, moi, ce que j'aimerais simplement montrer ici, c'est que Paul avait vraiment un élan d'implantation d'église et il trouvait des gens clés comme Épaphras qui a démarré ses églises. Alors, j'aimerais vous montrer en quelques instants des exemples modernes. D'accord ? J'aimerais vous montrer des exemples à Paris et à Genève. Prenons l'église de Paris-Nation. Alors, tu connais l'église de Paris-Nation ? T'es déjà allé ? Alors moi, c'est intéressant. Paris-Nation est très connue en France. C'est une église qui a démarré beaucoup d'églises. Alors elle est très connue, d'accord ? Alors je vais vous raconter cette histoire dans 2 secondes. Alors Paris-Nation est à Paris-Nation, donc dans l'est de Paris. Et elle a eu à cœur d'implanter des nouvelles églises au fur et à mesure des années. Regardez le résultat. Premièrement, Alfortville. Paris 15e. Fortenay, Paris 20e, Saint-Maur, Paris-Doménil. Ça, c'est une église petite fille. Ça veut dire qu'ils ont démarré une église qui a ensuite démarré une église. Montreuil, République, là, j'arrive pas à lire, Saint-Blaise. Conclusion. Alors, recule d'une image. Regardez voir. C'est impressionnant quand même, non ? Alors nous, on a fait un petit week-end à Paris avec mon épouse il y a environ 1 an. Et notre hôtel n'était pas loin de Paris-Nation. Je me dis, ah super, ah, je vais aller à Paris-Nation, là, c'est l'église connue. Elle a vraiment un super ministère au fur et à mesure des années. J'y vais. Alors on est allé à Paris-Nation, on a été trouvé. Et moi, je m'attendais, je sais pas, une grosse église. Ben non, on est arrivé. Il y avait un bâtiment, une porte, un escalier dans un sous-sol un peu sombre. Et là, on arrive dans une salle, peut-être 100 personnes maximum, pas de fenêtre. Et là, j'étais quelque part un peu déçu. Je me suis dit, bah, ça, c'est Paris Nation. Puis ensuite, je me suis dit, ouais, mais regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont multiplié les églises. Parce qu'à Paris, c'est extrêmement cher d'acheter des locaux plus grands. Donc, ils ont une vision d'implantation de l'église. Prochain exemple. Voilà, donc ça, c'est la conclusion. Alors, la première église implantée par la Mission Team dans la région parisienne. Donc, moi, j'étais missionnaire de la Mission Team pendant 22 ans, d'accord? Et la première église, juste après la Deuxième Guerre mondiale, que la Mission Team a démarré, était à Orly, à côté de l'aéroport. Alors, qu'est-elle le résultat de son ministère? Ils ont commencé Longjumeau, qui est une grande église aujourd'hui. Ils doivent être au moins 200 et quelqu'un, je pense. Non? Par là? D'accord. Prochaine. Créteil, 1971. Ensuite. Vallière, ensuite, Savigny-le-Temple, ensuite, Vigneux, ensuite, Brétigny. Je crois que c'est la dernière sur eux, hein, c'est ça? Oui, alors recule d'un. Écoutez, ça, c'est le résultat du ministère d'une église. L'église qui a implanté des églises filles et petites filles. Aujourd'hui, Orly, je ne sais pas trop comment elle va, elle a eu des périodes très difficiles dans sa vie, mais les églises filles vont très bien. C'est excellent. Prochain. Conclusion, l'église, c'est multiplier. Je vous donne encore un exemple. Genève. C'est là où je suis, donc je voulais quand même vous parler un petit peu de Genève. Alors Genève, c'est facile à reconnaître. Il y a Genève, à côté de la France. Et ensuite, il y a un lac, avec un jet d'eau. Donc ça, c'est, comment dire, mon dessin de Genève. Prochaine. Alors, j'aimerais vous montrer juste un exemple des églises Action Biblique. C'est une dénomination, pas très grande, elle est suisse. Ils ont 17 églises en Suisse en tout, mais ils ont une église, leur église mère, qui s'appelle l'église de la Servette. Donc ça, c'est la Servette. Et moi, j'étais pasteur de cette église pendant 11 ans. D'accord? Alors, une église, regardez, elle a eu un ministère d'implantation d'église. On y va. Aunay, à Genève. Meignier, à Genève. Ensuite, moi je suis arrivé, et là on a démarré une église en France voisine à Annecy. Une église d'ailleurs qui va très bien aujourd'hui, ils ont presque 200 membres je crois. Prochaine, Ville-la-Grand, super église. Alors ça c'était compliqué parce que quand on a démarré Ville-la-Grand, tout mon conseil d'anciens est parti pour aller implanter l'église. Alors nous on a recommencé à zéro, bref, ça j'en reviendrai dans quelques minutes. Ensuite, eux ils ont démarré une nouvelle église, Bonneville, église petite fille. Ensuite, il y a 5 ans en arrière, il y a eu un petit problème à la Servette. Et moi, j'ai quitté la Servette. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, tous les anciens ont quitté. Et on a attendu 6 mois. Et ensuite, on a démarré une nouvelle église. L'église dont je suis pasteur aujourd'hui, qui s'appelle l'église évangélique internationale de Genève. Elle n'est pas dans la dénomination de l'Action biblique, mais je donne crédit à l'Action biblique parce que c'est une église issue de l'Action biblique. Ça, c'est évident. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 églises filles et une église petite fille. À Annecy, je parlais avec le pasteur l'autre jour, et il m'a dit qu'ils vont maintenant démarrer une nouvelle église à Aix-les-Bains. J'étais ravi. Je lui ai envoyé le PowerPoint. Prochaine image. Conclusion, l'église s'est multipliée. Prochain. Alors, quelle a été l'évolution du nombre de personnes dans les églises AB à Genève sur 20 ans? D'accord? Si maintenant on compte les gens, et c'est là où j'espère que vous allez être encouragés. Si on compte les gens. Regardez. En 1990, la Servette avait 170 personnes. C'était une grande église à Genève. On est monté à un moment donné jusqu'à 220, presque 240. Alors là, c'était énorme, quoi. Mais regardez, 10 ans plus tard, tiens, on est toujours à 170. Vous dites, alors c'est un échec. Sur 10 ans, aucune croissance. Pas trop vite. Ah oui, mais il y a l'église d'Aunay qu'on a démarré. Ensuite. Ah, l'église de Meignier qu'on a démarré. Ensuite. Ah, Ville-la-Grand, grand total, 310 personnes. Ah, alors tout d'un coup, si on regarde l'ensemble, on est encouragé. 10 ans plus tard, oh, catastrophe. L'église mère s'est rapetissée, 100 personnes. Échec total, on a l'impression. Continuons. Aunay, 50 personnes. Meignier, 60 personnes. Ville-la-Grand, 200 personnes. Annecy, 150 personnes. Bonneville, 40 personnes. Notre église, 150 personnes. Regardez le grand total, 750 personnes. Mes amis, ça c'est convaincant pour moi. On est en Europe, c'est compliqué, c'est difficile, on est d'accord. Mais je pense que là, il y a vraiment un modèle biblique que l'implantation d'une église sur le long terme accomplit vraiment le dessein de Dieu pour le monde. La croissance de l'église. Alors vous dites, ouais, mais alors, John, n'y a-t-il pas des désavantages d'implanter des nouvelles églises? Ben oui, je vais vous donner quelques désavantages. Un, vous perdez du monde. Imaginez que vous avez une église de 150 personnes, 50 partent pour démarrer une nouvelle église. D'un coup, vous perdez 50 personnes. Ah, c'est dur pour ceux qui restent. Vous avez l'impression que votre église rapetissie. Ça, c'est frustrant aussi. Et vous perdez de l'argent. Si vous avez 150 personnes et 50 partent, vous perdez un tiers de votre budget. Tac, en un jour. Compliqué. Faut gérer. Et c'est très dur sur l'ego personnel. Hein, on aime bien avoir des grandes églises. Ben, tu perds du monde, tout d'un coup, t'as plus une grande église. Alors t'es frustré sur ton ego. Et avec ce genre de modèle, t'es en train de conclure que tu vas jamais probablement avoir une très grande église dans ta vie. Tu l'acceptes. Et tout d'un coup, moi je suis en train de me dire, ah mais il faut avoir une perspective de Dieu. Le but c'est pas une grande église, le but c'est de voir hommes, femmes, être gagnés à Christ et intégrer les églises locales. C'est ça le but. Alors quels sont les avantages d'implanter des églises? Premièrement, c'est un modèle biblique. Deuxièmement, on multiplie le leadership. Alors quand j'ai dit, moi j'ai perdu mon conseil d'anciens d'un jour à l'autre, mais d'un jour à l'autre, tous ces anciens qui sont allés dans une nouvelle église avaient une nouvelle perspective sur le ministère parce qu'ils voulaient, eux, gagner plus de monde. Et nous, du coup, l'église qui a donné, ben nous on était frustrés, donc moi j'ai dû reformer des anciens. Et nous on était hyper motivés. Alors tout d'un coup, les ministères de chacun se sont multipliés. Des gens se sont engagés. On multiplie les ministères, le service, on multiplie l'évangélisation parce que l'église qui perd devient plus zélée pour l'évangélisation parce qu'elle a besoin de grandir, et l'église qui est partie va commencer à évangéliser plus parce qu'elle veut aussi grandir. C'est excellent pour l'évangélisation. Ça multiplie l'enthousiasme. Et ça multiplie aussi de pouvoir et oser rêver à l'extérieur de ce qu'on est habitué de faire. Nous, par exemple, on est en train d'organiser des immenses concerts à Genève aujourd'hui, très grands, dans le meilleur concert hall. On invite 100 personnes qui viennent de la Roumanie. C'est un truc de fou, mais on ose penser autrement, parce qu'on veut vraiment voir cette ville de Genève atteinte par l'Évangile, et on cherche des ponts pour pouvoir que les gens puissent goûter un petit peu du Seigneur. Je vais vous donner une pensée. Pensez à ceci. Chaque église qui existe aujourd'hui, chaque église a été démarrée par quelqu'un. Chaque église a été démarrée par quelqu'un un jour. Moi, je trouve ça excellent. Nous devons avoir une perspective globale de Christ. Alors voilà, ça c'est ma conclusion. Je pense que la grâce de Dieu, si on la saisit, si on la comprend, si on la partage, va nous donner un amour pour l'église. Alors vous êtes dans une église, je pense, j'espère. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Toute église ne peut pas démarrer une nouvelle église, ça je comprends. Mais y a-t-il au moins ce désir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est à vous à réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre cet élan? Pour vraiment avoir cœur la Belgique et de voir hommes, femmes et enfants être gagnés à Christ par des chrétiens intégrés dans les églises afin qu'ils soient eux-mêmes intégrés dans l'église. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu es mort pour l'Église, tu as sacrifié ton Fils pour l'Église, tu as racheté l'Église. Seigneur, nous sommes l'Église. Merci pour cette grâce merveilleuse. Seigneur, redonne-nous un élan, un désir d'être zélé pour toi, Seigneur, même si c'est difficile, même si le fruit est rare. Seigneur, il n'est pas aussi rare qu'on pourrait l'imaginer parce qu'il y a, je crois, plus de 20 églises qui sont représentées ici. Donc, il y a des églises en Belgique, des églises qui démarrent. Il y a un élan. Seigneur, je te prie de redonner courage à tous ces chrétiens. Fais une œuvre, Seigneur. Continue l'œuvre que tu as commencée. Et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.